je crois. Donc c'est quand même compliqué de partir de là. En même temps, c'est indispensable. Parce que ça pèse lourdement sur le fameux endettement français. Donc c'est en effet socialement injuste pour nos enfants, nos petits-enfants, qu'on leur lègue tout ça. Donc moi, je pense que c'est une direction inévitable, en effet, de ramener ça. Pas forcément, on ne va pas copier les pays où la fonction publique la plus faible. Enfin, il faut aller dans cette direction. En plus, en termes politiques, Emmanuel Macron l'a annoncé. Donc c'est honnête. C'est honnête. Les Français ont ratifié ça en les lisant. Alors évidemment, toutes les résistances habituelles se manifestent contre n'importe quelle réforme, même quand les gens approuvées en principe. Donc on entre dans la difficulté. En tout cas, moi, j'approuve absolument cette orientation historique. Après, comment on fait? Et vous avez raison tous les deux sur la question du sens. Mais la question du sens, c'est parce que l'on a, disons, l'absence de réponse claire à la question du sens. C'est parce qu'on a beaucoup de mal à dire, mais quelles sont les vraies tâches? L'État est devenu obèse, il s'occupe de tout et de rien, je suis très mal d'ailleurs, même si les gens sont très dévoués, ils font le mieux possible. Par exemple, l'État a beaucoup de mal à piloter ses décisions économiques, les instructions qu'il donne à ses représentants dans les entreprises publiques, c'est souvent incohérent, bon, même à ce niveau-là, vous voyez. Donc, c'est quoi les vraies tâches? Alors là, on entre dans un débat où tout est mélangé.
Mais on peut l'avoir, ce débat, en France, aujourd'hui?
Non, c'est assez compliqué d'avoir un débat sur quoi que ce soit dans ce pays depuis longtemps, pour des tas de raisons, d'hystérie collective, Et puis, je ne vais pas refaire le chapitre sur les médias, disons, court-termistes, instantanéistes, la réaction, l'information continue, donc l'excitation continue. Bon, tout ça joue. Mais même s'il y avait une ambiance de calme, comme dans une vaste académie, répondre à la question, c'est quoi les vraies tâches? On dit le régalien, mais ça va où, le régalien? Vous voyez, quand on prend la police, par exemple, ça s'arrête où? C'est compliqué, d'autre part, par une sorte de mirage européen qui est des tas de choses dont on dit qu'en fait, ça serait peut-être plutôt au niveau européen. C'est un facteur d'incertitude de plus. Et puis, c'est compliqué par l'affaire du millefeuille, où, en effet, il y a des tas de niveaux de décision à partir de la bonne intention de décentralisation, mais comme l'État a gardé des morceaux, tout ça s'est empilé. Et chaque niveau a une politique de recrutement dans la fonction, pas au niveau de l'État, mais région, etc., politique de la fonction publique, parce que c'est des politiques de clientèle. Bon. Donc, en tout cas, on a besoin de bien combiner la nécessité, dans la direction historique, de réduire petit à petit le poids de la dépense publique, qui est prélèvement obligatoire, qui sont extravagants dans ce pays, et en même temps donner du sens à ceux qui sont là. Donner du sens, c'est réconforter, la mission. À quoi servent-ils? Il faut dire qu'il y a des missions de l'État qui disparaîtront, qui ne sont plus menées par l'État, mais par d'autres entités. On a d'ailleurs multiplié les agences et les organismes autonomes depuis 20 ans. Il y a des choses qui seront décentralisées, mais d'autres qui seront prises en charge par la société elle-même. Ça dépend. Alors, comment le dire? Comment le dire démocratiquement et légitimement? Il ne suffit pas d'avoir dit, dans une élection présidentielle, on va réduire. Donc, c'est le débat démocratique qui répond à ça. C'est le débat politique.
C'est le débat qu'on n'a pas réussi à avoir pendant la campagne, au moment où elle s'est un peu focalisée sur ces questions fonctionnaire, c'est-à-dire avant le Penelope Gate. C'est au moment où Fillon faisait ses propositions qu'on a un peu parlé de ça. Et quand on disait, bon, très bien, admettons, vous voulez supprimer 500 000 fonctionnaires, disait Fillon.
Où? Lesquels?
Lesquels? Comment? Alors, ils s'en sortaient avec quelques acrobaties comptables, mais c'est la question la plus difficile. Dans l'éducation, non. On veut plutôt investir dans le capital humain. Dans la police, non. Terrorisme, sécurité. Dans l'armée, non. La géopolitique, dans les hôpitaux, non, vieillissement, dans les EHPAD, non, vieillissement, où?
Mais comment font les autres pays d'Europe?
Parce que, et dans les collectivités locales?
Je viens d'énumérer les cohortes les plus nombreuses des trois fonctions publiques. Alors, il reste quand même quelques endroits où on peut dire sérieusement et courageusement, il y a un effort à fournir. Et il y en a un, ce qu'on appelle le bloc communal. Bon, quand on regarde des rapports de la Cour des comptes, on a empilé les strates avec les intercommunalités et les communes. Les intercommunalités auraient dû se substituer aux communes. Je m'excuse, c'est un peu technique, c'est pas extrêmement glamour, mais elles se sont pas substituées, elles se sont ajoutées. Donc là, il y a un problème de dérive de l'emploi dans le bloc communal. Ça fera pas beaucoup d'économies parce que c'est pas des gens très bien payés. Faut pas fantasmer. Mais dans les effectifs, effectivement, là, il y a du nombre, il y a besoin de rationalisation. Je vous donne un exemple qui m'a beaucoup troublé, je ne le savais pas, quand on compare les grandes métropoles mondiales et qu'on compte les communes à l'intérieur des métropoles mondiales, donc prenez Shanghai, New York, Tokyo, Paris, Londres, etc. Quelle est celle où il y a le plus grand nombre de communes? C'est l'Île-de-France. Il y a 1300 communes, je crois, quelque chose comme ça. Bon. Ça complique tout. Et évidemment, ça suppose beaucoup d'emplois publics. Donc là, on peut faire des choses. Bon. Après, quand on regarde où la France dépense plus que les autres par rapport à ses voisins européens, c'est quoi? C'est pas du tout dans les fonctionnaires, en réalité. C'est dans les retraites. Bon, la moitié de la différence à la moyenne des dépenses publiques des Européens, c'est le coût de notre système de retraite. Ensuite, vous avez des postes type la politique du logement. Bon, les APL qui ont été au cœur de l'actualité, c'est un gros bloc qui nous distingue de la structure des dépenses publiques de nos voisins. Et puis vous avez les collectivités territoriales dont je viens de parler. Bon. Donc c'est effectivement un problème très compliqué de savoir où on coupe, on supprime des emplois. Et c'est ce débat-là qu'il faudrait avoir courageusement, en effet.
Et au bout du débat, le gouvernement doit trancher, c'est fait pour ça.
François-Xavier Bellamy, est-ce que la notion de gouvernance, elle a un sens dans le débat politique aujourd'hui?
Il faut espérer que oui, parce que sinon tous ces débats sont vains. Et de fait, il faudrait que la gouvernance reprenne vraiment son rôle, qui est de fixer un cap et de donner une direction. Je serais un peu moins pessimiste que vous, parce que je crois que il y a une forme de conscience collective aujourd'hui de ces enjeux, et que les Français sont assez mûrs pour comprendre qu'il est nécessaire de faire des efforts, mais au moins de retrouver le sens de ce cap à suivre. Et je crois que sur beaucoup de sujets, on se rendrait compte qu'on ferait mieux avec moins. Je reprends la question de ce millefeuille territorial, hein, qui est effectivement tragique, parce que non seulement il suscite une pléthore d'emplois publics, puisque en fait chaque structure, c'est spinoziste, hein, chaque structure tend à persévérer dans son être et à développer sa propre activité. Donc si vous créez une intercommunalité et que vous ne supprimez pas les communes, l'intercommunalité va développer une politique culturelle. La ville a une politique culturelle, l'interco a une politique culturelle, le département a une politique culturelle, la région a une politique culturelle. Ce qu'on appelle la clause de compétence générale fait que, à la fin, toutes les collectivités se doublonnent.
Et puis, par ailleurs, il faut dire pour nos auditeurs quand même que la clause de compétence générale dit que
toute collectivité peut se saisir de toutes les thématiques, tous les sujets de l'action publique
qu'elle souhaite. Ouais.
Chaque niveau a sa propre communication.
Chaque niveau a sa propre communication, son propre magazine, sa revue, etc. Et pour n'avoir pas fait de choix, non seulement on paye très cher cet empilement de strates, mais en plus, il a pour résultat de paralyser la décision publique. D'ailleurs, je le vois comme élu local, quand le maire de ma ville doit prendre une décision marquante en termes d'urbanisme sur un quartier en plein développement, il faut réunir autour de la table l'accord de toutes ces strates qui s'empilent avec des logiques politiques qui sont souvent contradictoires, qui fait que la décision publique en est paralysée. Et donc, on ferait mieux avec moins. C'est la même chose dans l'éducation nationale, par exemple. Je pense que le grand paradoxe, c'est que si on en reste au non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux, on voit que beaucoup d'enseignants sont épuisés, peinent à tenir le rythme, etc. En revanche, il y a aujourd'hui dans notre système éducatif, on est en gros à un peu moins d'un million de fonctionnaires pour l'éducation nationale, et il y en a 180 000 qui ne sont pas devant des élèves. Et là-dessus, c'est exactement de la même manière, on a un empilement de strates qui nous empêche de vivre vraiment ce que vous décriviez tout à l'heure, le principe de subsidiarité, c'est-à-dire le fait qu'au fond, chaque échelon s'occupe de ce qui est le plus, ce dont il est le plus à même de se préoccuper.
France Culture, l'esprit public, Émilie Aubry.
On en parle en effet depuis la nuit des temps, Hubert Védine, disiez-vous pendant cette virgule musicale. Est-ce que vous l'attendez au tournant Emmanuel Macron sur ce sujet-là? Est-ce que vous attendez de lui que ce discours de la méthode, il le tienne et il le tienne rapidement?
Je ne l'attends pas au tournant. Moi, j'attends qu'il mette en œuvre ce qu'il a annoncé, son programme et ce pourquoi il a été élu. Attendre au tournant, ça le sentiment d'un piège. Non.
C'est le début, en même temps, vous avez dit qu'il y a la nécessité de tenir ce discours-là. Vous êtes tous les trois d'accord autour de cette table pour dire qu'il y a une pédagogie de la réforme à faire. Est-ce qu'il l'a fait suffisamment?
Oui, mais vous savez, c'est un pays quand même compliqué, parce que même s'il y avait une pédagogie absolument géniale en matière de réforme, déjà au moins il a annoncé les choses sur le plan fiscal, sur le plan européen, sur le plan des réformes, sur le plan travail, sur le plan maintenant, tout le volet auquel le gouvernement s'attaque et qui complète la flexibilité, qui est la sécurité, formation, tout ça, ça a été annoncé. Hein. Il n'empêche qu'il y a des forces de résistance tout à fait en contradiction entre elles, mais qui convergent pour bloquer. J'adore citer la vieille formule d'Edgar Faure sur cette question. L'immobilisme est en mouvement et rien ne pourra l'arrêter.
Avec un cheveu sur la langue, c'est